France Inter.
Et 19h, c'est l'heure de votre journal, Éric Delvaux. Bonsoir, cher Éric.
Bonsoir, Thomas, et bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, du jamais vu, s'inquiète le maire de Montignac-Lascaux en Dordogne. Après plusieurs jours de précipitations, la Vézère est sortie de son lit. Pas de victimes, mais des dégâts et quelques frayeurs. Le pic est attendu la nuit prochaine. Dans la page politique, nous verrons que François Bayrou aimerait bien mettre de la proportionnelle dans les législatives. Une perspective qui ne fait pas consensus, pas même à l'Élysée, nous dira Julien Nenni. Nous retournerons à Rome où Papa Francesco est apparu bien fragile aujourd'hui pour souhaiter une bonne Pâque aux fidèles. Reportage à suivre de Bruno Duvic. En France, nous irons visiter une exposition sur l'histoire des affiches de cinéma. C'est à la Fondation Cédou Pathé à Paris jusqu'au 26 septembre. Et puis nous ferons un détour par le stade Geoffroy Guichard à 1h30 de la rencontre Saint-Étienne-Lyon. Un derby crucial pour les deux équipes. Et puis le temps de demain, Céline Dacosta, ce sera donc encore un lundi perturbé.
Oui, on aura encore des averses le matin entre le sud-ouest et les Hauts-de-France.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. Des voitures presque entièrement recouvertes par les eaux, attention donc à ces crues en Dordogne et en Corrèze aussi. En Dordogne, la Vézère est sortie de son lit, il n'y a pas de victimes mais beaucoup d'images impressionnantes, notamment dans la commune de Montignac-Lascaux, là où la montée des eaux a atteint 2,80 m en moins de 2 heures. Le pic est attendu la nuit prochaine et par précaution, c'est en barque que Michel E, 63 ans, a dû quitter sa maison. Marie-Astrid Guégan, ici Périgord, était là.
Michel s'agrippe à la barque verte et rouge pendant qu'un de ses amis pagaie pour l'emmener de l'autre côté de la place, au sec.
Et on est obligé de partir, si vous voulez, l'eau monte et ça me tourne l'estomac un peu.
C'est bon ?
C'est pas ça, c'est que c'est mon genou. Là, donc, je vais les attendre là, les chiens. Là.
Oui, j'ai deux petits chiens. Oui.
Entendez-le, il veut venir. Il y en a marre maintenant, j'en ai marre.
Pourtant, la retraitée vit là depuis plus de 40 ans. Elle est habituée aux crues de la Vézère.
Quand on a acheté, elle est montée 9 fois.
Mais cette fois, c'est différent.
Elle est montée très vite, très vite. On a appelé le maire, les gendarmes.
Tout ça en pleine nuit. Michel a surtout appelé son fils, Yves, arrivé en urgence avec sa tenue de déménageur.
Et on inonde à environ une hauteur de 5,20 m. Comme ils ont annoncé une cote d'alerte, enfin une crue à 6 mètres, bon ben, on va avoir environ 80 cm d'eau dans la maison. Donc il faut surélever les meubles et anticiper.
Ils n'ont pas dormi de la nuit.
Je ne me suis pas couchée, je suis restée... Oui, je me suis allongée une minute, mais c'est tout.
Il a fallu démonter un canapé, puis tout stocker à l'étage. Maintenant, c'est au tour des chiens, Alf et Isis, de monter dans la barque.
Ils sont un peu paniqués, là ?
Oui, lui, ah oui, sortons lui.
Depuis hier soir, il est...
C'est bon, tata ?
Oui, allez hop, il va marcher.
Michel part chez son fils avec une valise pleine de linge. Elle ne sait pas quand elle pourra revenir.
Voilà, c'est du jamais vu, dit encore le maire de Montignac-Lascaux, qui a présidé, il y a une heure, une cellule de crise dans sa commune. Reportage de Marie-Astrid Guégan, ici Périgord. La piste d'une fausse disparition. Quelques heures seulement après avoir retrouvé le jeune Liam, cet adolescent de 12 ans dont la mère avait annoncé la disparition autour de Poitiers, eh bien cette mère était ce matin en garde à vue, tout comme sa fille, également un proche de la famille chez qui l'enfant a séjourné durant près d'une semaine. Une probable fausse disparition donc orchestrée par la mère, disent les enquêteurs, sur fond de conflit avec son ex-mari. En politique, revoici la proportionnelle, régulièrement évoquée, jamais concrétisée, pas depuis François Mitterrand en tout cas. Voilà que François Bayrou, qui a toujours défendu cette proportionnelle aux législatives, souhaite consulter les forces politiques à partir du 28 avril. Cette réforme pourrait même être examinée dès l'automne, si l'on en croit Patrick Mignola, le ministre des Relations avec le Parlement. Sauf que, bonsoir Julien Nenni.
Bonsoir.
Sauf que le projet ne fait pas consensus.
Oui, c'est un euphémisme. D'un côté, c'est l'un des très rares sujets sur lequel on peut mettre d'accord le Modem donc, mais aussi la gauche et le Rassemblement National, le RN par exemple, y voit une façon de faire encore grossir ses rangs à l'Assemblée, comme en 1986, quand la réforme de François Mitterrand avait permis à Jean-Marie Le Pen et 35 députés FN d'être élus députés, une première historique. Reste que ceux qui s'opposent à la proportionnelle pèsent aussi lourd dans la balance. Ce sont d'abord les Républicains, partenaires fragiles mais indispensables du bloc central et majoritaires au Sénat. Eux ne veulent pas en entendre parler et essentiellement par fidélité au général de Gaulle et aux faits majoritaires de la Ve République. Même hostilité pour le parti Horizon d'Édouard Philippe, à ce stade le mieux placé dans les sondages à droite et au centre pour la prochaine présidentielle. Là encore, ça en fait un interlocuteur incontournable des consultations à venir.
Et Emmanuel Macron, Julien, la proportionnelle, il en pense quoi ?
Alors, avant les élections, beaucoup de bien, c'était même dans son programme en 2017 et en 2022, mais une fois au pouvoir, c'est moins évident. Même si l'Élysée cite toujours la proportionnelle comme un sujet possible de référendum, la dissolution ratée de l'été dernier semble faire réfléchir le président. « Je ne le sens pas très chaud sur le sujet », confiait récemment un ministre de premier plan. Mais une idée pourrait réconcilier Emmanuel Macron et François Bayrou, instaurer la proportionnelle en échange d'un accord de non-censure avec une partie de l'opposition, par exemple à l'automne, pendant l'examen du budget. Au gouvernement, certains y songent ouvertement.
Julien Nenni, service politique de France Inter. Philippe Tabarot, le ministre chargé des Transports, goûte assez peu les préavis de grève déposés à la SNCF par les syndicats CGT et Sudrail qui appellent les contrôleurs et les conducteurs à débrayer la semaine du 5 au 11 mai. La perspective d'une semaine noire à la SNCF pendant le pont du 8 mai. Le ministre estime que de nombreuses concessions ont déjà été faites.
Je fais confiance à la fois à la SNCF et je dirais à tout le monde cheminot pour comprendre que pour défendre ce secteur par rapport à une concurrence importante, par rapport à des difficultés sur un sous-investissement chronique depuis des années, on a besoin d'investir, on ne peut pas se permettre d'avoir des grèves. Il n'y a jamais eu autant d'appétence pour le train dans notre pays. Il ne faut pas dégoûter nos concitoyens de prendre le train. En tout cas, je fais appel à tous les cheminots pour leur esprit de responsabilité pour éviter un conflit que les Français ne supportent plus.
Un conflit que les Français ne supportent plus, disait le ministre chargé des Transports ce midi sur France 3. Voilà un argument qui ne fait pas vaciller le délégué syndical Sudrail, Fabien Villedieu.
Nous, on ne fait pas un conflit en fonction de ce que pense le ministre des Transports. Voilà. On fait un conflit en fonction de ce que pensent les collègues, en fonction de la situation. Non seulement c'est une entreprise qui fait des bénéfices, mais en plus c'est une entreprise qui a des taux de croissance à deux chiffres. C'est-à-dire qu'à la fois on fait de l'argent et à la fois on a des perspectives de croissance devant nous. Dans ce contexte-là, aller chercher des augmentations de salaire, enfin, ça serait pas légitime. Mais c'est une blague. À chaque fois qu'il fait ce type de sortie, il renforce les collègues dans leurs convictions et il y en a encore plus de collègues qui se disent « Ah bah si c'est ça, on va se mettre en grève ».
Fabien Villedieu, le délégué syndical Sudrail. Est-ce la fin des ennuis pour l'EPR de Flamanville dans la Manche ? Depuis hier soir, il est reconnecté au réseau électrique. Il était à l'arrêt depuis deux mois à cause de problèmes techniques. Et après plusieurs opérations de maintenance, Lauriane Delanoë, ce redémarrage va permettre à EDF de vérifier l'efficacité des réparations.
Oui, l'EPR reprend sa petite production d'électricité. Il est encore loin de sa pleine puissance. La mise en service est très progressive depuis la toute première connexion au réseau en décembre dernier. Les essais en fonctionnement reprennent donc depuis hier soir et les agents de Flamanville vont surveiller attentivement le groupe turbo-alternateur. Cette partie de la centrale qui produit vraiment l'électricité présentait un échauffement anormal avant ce long arrêt de deux mois. Les opérateurs ont fait des réglages et maintenant, avec la reconnexion au réseau, ils sauront si ce problème est réglé ou s'il faut de plus gros travaux. EDF précise, cette phase de contrôle permet justement de détecter toutes les interventions nécessaires pour que le réacteur fonctionne en toute sûreté. Et l'électricien prévient, il y aura de nouveaux arrêts et redémarrages de l'EPR dans les prochains mois au fil de la montée en puissance.
Oui, montée en puissance qui doit atteindre la pleine vigueur cet été. Emmanuel Macron avait promis de revenir à Mayotte. Eh bien, la promesse sera tenue demain, quatre mois après le passage du cyclone Chido et ses 40 morts dans ce département le plus pauvre de France. Le président entamera une tournée de 5 jours dans l'océan Indien, La Réunion, Madagascar et l'île Maurice. Bonsoir Ilia Bergel.
Bonsoir à tous.
Envoyé spécial dans l'océan Indien. Mayotte donc pour commencer cette tournée. Mayotte où les habitants attendent un projet précis pour reconstruire l'archipel.
Emmanuel Macron vient faire le point sur la reconstruction de l'archipel, remise sur pied bien trop lente au goût de la population qu'il avait chahutée lors de son dernier passage en décembre. Le travail est en cours, martèle l'entourage du chef de l'État. Niveau de production électrique similaire à avant le cyclone, idem pour la production de l'eau, assure l'Élysée. Comme la fois précédente, Emmanuel Macron va rencontrer des habitants. Une élue de l'archipel pronostique un accueil colérique. Selon elle, rien n'a été fait en 4 mois. Dans la foulée de sa visite, Emmanuel Macron présidera demain soir un conseil des ministres à distance, en visio, depuis son avion. Le projet de loi très attendu sur la refondation de Mayotte sera présenté. Au menu des mesures économiques, mais aussi un volet de lutte contre l'immigration clandestine depuis les Comores.
Elia Bergel avec Sandrine Malon, les deux envoyés spéciaux de France Inter dans l'océan Indien, pour cette visite que le président Macron donc entamera demain matin pour 5 jours.
France Inter, Éric Delvaux.
À Rome, c'est un pape François toujours très affaibli qui s'est présenté à la mi-journée au balcon de la place Saint-Pierre de Rome, à bout de souffle. Il a juste souhaité une bonne Pâque avant un bain de foule surprise en papa mobile auprès de quelques milliers de fidèles. Et parmi ces fidèles, Bruno De Vic a rencontré quelques Français. Reportage.
Fratelli e sorelle, buona Pasqua.
Le pape n'est quand même pas très très en forme. Je pense que pour lui, ça doit être très compliqué.
On voit qu'il avait du mal à parler correctement.
Et de faire même le tour en papa mobile, vraiment, ça a été fabuleux le fait de l'apercevoir. Toute la famille était en communion, c'était très sympa.
J'avais depuis des années envie de le voir, mais on n'y croyait pas vraiment. Ben, moi, ça me fait du bien, ça me fait beaucoup de bien.
Même si Lourdes, c'est beau, franchement, le Vatican, ça a à vivre. Et surtout, je pense que de voir le pape aussi, une représentation un peu de la religion en une personne sur cette terre, avec tous les événements qui se passent en ce moment, je pense que c'est très rassurant de le voir.
Pater, Filius, Spirit Sancti.
Je souhaiterais qu'il prenne cette décision de passer la main à quelqu'un d'autre, parce que c'est vraiment très très fragile pour lui. C'est s'épuiser, il s'épuise finalement. Hein.
Bon, il n'est pas seul, hein. Il y a tous les cardinaux qui sont autour de lui. Depuis quelque temps, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de paroles des prêtres pour la santé du pape, et voilà, c'est quelque chose qui préoccupe les croyants, c'est sûr.
Grazie, Papa Francesco, e buona Pasqua.
Bonne Pasqua, cette fois dans la voix d'un collaborateur du pape. François, je vous le rappelle, est toujours en convalescence pour une double pneumonie. C'est un reportage de notre correspondant en Italie, Bruno De Vic. Moins d'un mois après la mort de 15 ambulanciers et secouristes dans le sud de la bande de Gaza, abattus par des tirs israéliens, l'enquête montre que des militaires israéliens ont commis des manquements professionnels. Une erreur, dit ce soir l'officier israélien chargé de l'enquête. Un commandant israélien sera démis de ses fonctions. Les États-Unis pourraient considérablement réduire leur présence diplomatique en Afrique. C'est ce que laisse entendre un projet de décret présidentiel. Le document appelle à réduire le gaspillage et les abus. Le projet a été dévoilé par le New York Times. Aussitôt démenti par le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, qui parle de fausses informations et même d'un canular dont aurait été victime ce New York Times. La population japonaise ne cesse de vieillir, elle diminue même, et ça fait 14 ans que ça dure. Malgré une immigration importante, le nombre de Japonais a chuté d'un demi-million l'an passé, une baisse amplifiée par un terrible déficit des naissances. Reportage à Tokyo de notre correspondante Karine Nishimura.
La dénatalité au Japon dure depuis plus de 40 ans. Pourtant, les allocations, les aides augmentent et rien n'y fait. Pourquoi ? Réponse de citoyenne.
Parce que le gouvernement fait n'importe quoi, pardi. Les mesures prises vont dans la mauvaise direction. Si on améliorait l'environnement de travail et la hausse des revenus, le nombre d'enfants augmenterait naturellement. Mais vu qu'on fait le contraire, on n'évitera pas la dénatalité.
Les Japonais pensent qu'il ne faut ennuyer personne et qu'on doit soi-même s'occuper intégralement de ses enfants. Et l'éducation des enfants est vue comme une responsabilité féminine.
Les jeunes femmes savent ce qui les attend, donc elles ne veulent plus d'enfants.
Selon l'universitaire Junya Tutsui, l'équation gouvernementale plus d'allocations familiales égale plus d'enfants à naître est trop simpliste dans un Japon où le mariage reste le premier pas vers la parentalité.
Même si vous augmentez les allocations familiales, un ou une célibataire qui n'a pas de copain ou de copine ne se dira pas immédiatement « chouette, il faut vite que je trouve un partenaire pour faire des enfants et en profiter. Il y a d'autres mesures à prendre. »
Les femmes ont aussi besoin de pouvoir garder une liberté et du temps pour elles, ce que la société tente à leur enlever quand elles deviennent mères. Tokyo, Karine Nishimura, France Inter.
C'était il y a 15 ans, jour pour jour, le 20 avril 2010 donc. La plateforme pétrolière Deepwater Horizon explosait dans le golfe du Mexique. Et il y a eu 11 morts et des centaines de milliers de litres de pétrole déversés dans la mer. Et bien 15 ans plus tard, les conséquences environnementales restent désastreuses. Les coraux du golfe ne sont toujours pas remis. Mathieu Brown.
Depuis l'explosion de la plateforme Deepwater, la biologiste Fanny Girard de l'Université de Hawaï est régulièrement retournée sur le site pour photographier des coraux à l'aide d'un sous-marin télécommandé.
Donc certains coraux étaient complètement couverts de pétrole et ceux-là, en gros, ils ne se remettent pas du tout de la marée noire. Et d'autres coraux qui étaient impactés plus légèrement, et là, ça a l'air un peu mieux. Mais c'est quand même inquiétant parce que ça fait 15 ans et pour certains coraux, on voit aucun signe qu'ils vont aller mieux après 15 ans d'études.
BP, l'opérateur de la plateforme, a mis des mois avant de pouvoir boucher le puits pétrolier. Entre-temps, l'entreprise a utilisé un dissolvant chimique qui a fait couler le pétrole au fond de la mer. Or, ces coraux situés entre 1300 et 2000 mètres de profondeur, loin de la lumière, sont encore plus vulnérables que les coraux tropicaux australiens moins profonds.
Tout est très lent dans l'océan profond. On sait que certains coraux peuvent vivre plusieurs centaines d'années, voire même jusqu'à 1000 ans. Et ils ont aussi des taux de croissance qui sont très faibles. C'est des organismes qui vont grandir peut-être 1 cm par an ou moins. Mais ce qui veut dire aussi que quand ils sont impactés, en fait, ils sont très vulnérables et ils mettent très longtemps à s'en remettre ou ils s'en remettent pas, en fait.
15 ans après la catastrophe, les coraux du golfe du Mexique sont toujours marqués. Mais Fanny Girard espère que ces études permettront de mieux protéger cet écosystème contre d'éventuelles marées noires.
Reportage de Mathieu Brown. Le football avec à 20h45 un Saint-Étienne-Lyon, un derby une nouvelle fois crucial entre une équipe stéphanoise en quête d'un second souffle et une formation lyonnaise bien placée. Bonsoir François Ventéjou.
Bonsoir à tous.
Vous êtes en direct du stade Geoffroy Guichard de Saint-Étienne. Donc, les Lyonnais sont certes bien placés, mais encore sonnés par leur désillusion à Manchester jeudi dernier, éliminés en quart de finale de la Ligue Europa.
Oui, les souvenirs sont encore très frais dans la tête des Lyonnais. Ce cauchemar vécu à Manchester jeudi donc, qui mettra sans doute du temps à être oublié. On rappelle que l'OL menait 4-2 à 6 minutes de la fin des prolongations, avant d'encaisser 3 buts coup sur coup, un scénario invraisemblable. Et malgré l'énorme déception, il a fallu vite passer à autre chose pour les Lyonnais. Pas le temps d'être dépressif, a dit l'entraîneur Paulo Fonseca en conférence de presse avant ce derby. L'OL joue le podium, synonyme de Ligue des Champions en cette fin de saison en Ligue 1. Gagner ce soir, c'est recoller à Monaco, troisième avec 54 points. En revanche, perdre, c'est laisser la quatrième place à Lille. Le faux pas est donc interdit, mais attention, en face, les Stéphanois jouent leur survie en Ligue 1. Ils sont avant-derniers à 3 points du Havre, qui est barragiste. 90 minutes pour changer le cours de la saison. Voilà le message sur la banderole déployée hier par les supporters des Verts à l'entraînement. Saint-Étienne, qui aimerait aussi retrouver le goût de la victoire dans ce derby. Il ne l'a plus gagné depuis 6 matchs, soit octobre 2019. Ça veut dire qu'aucun des joueurs sur le terrain ce soir n'a déjà battu l'Olympique Lyonnais. Voilà une source de motivation pour les Verts.
François Ventéjou en direct de Geoffroy Guichard pour ce Saint-Étienne-Lyon. Début de la rencontre à 20h45. Vous reprendrez bien un petit peu de chocolat avant l'indigestion. Demain, lundi de Pâques, eh bien nous partons ce soir à Biarritz, dans les parcs et jardins de la ville, pour une chasse aux œufs sous une pluie battante. Aujourd'hui, Armand Morera, ici Pays Basque, était tout aussi gourmand et motivé que les enfants.
Au pied du phare de Biarritz, ils étaient une bonne centaine d'enfants devant les barrières quelques secondes avant l'ouverture, comme Léna, 3 ans, impatiente de ramasser tout ce chocolat.
C'est une cloche qui nous apporte.
Tu vas en ramasser combien, toi, tu penses, des œufs ?
Beaucoup.
Tu vas pouvoir m'en donner un peu des œufs à moi ?
Bah non, parce que maman, il en veut.
Les parents, eux aussi, étaient pressés.
Là, on trépine, là. Plus qu'une minute.
Et une fois les barrières ouvertes...
Allez, c'est parti ! Allez !
Il aura fallu à peine 10 minutes pour dévaliser le jardin du phare, malgré la pluie torrentielle. Louis, 8 ans, est venu avec un plan en tête.
J'attends qu'elle lance vers moi et... J'ai bien vu où est-ce que ça atterrissait à peu près. Donc voilà, là j'en attrape. J'ai tout ramassé.
Plus loin, un autre Louis, 5 ans, avait quant à lui prévu un complice.
Papa, il va trouver.
Tu vas en ramasser beaucoup ?
Oui, je pense que j'ai 14.
Résultat, avec sa mère, Laura.
Je pense que là, on est loin des 14. Je pense qu'il a oublié de les multiplier.
Elle qui a préféré braver les éléments que passer une matinée bien au chaud sous la couette.
On n'a pas le choix, oui. Il faut les sortir et leur faire découvrir cette chasse aux œufs culte. Moi, je l'ai fait toute mon enfance et j'avais envie de partager ça avec lui.
Elle pourra quand même se réconforter en piochant un œuf en chocolat dans le panier de son fils.
Voilà pour cette quête aux œufs à Biarritz, reportage Armand Moreira, ici Pays Basque. Une exposition à présent, exposition sur l'histoire du cinéma et plus précisément sur l'affiche de cinéma. Ça se passe à la Fondation Sédou Pathé à Paris, 13e arrondissement. Les origines de l'affiche de la fin du 19e siècle et son évolution jusqu'au lendemain de la Première Guerre mondiale. Reportage sur place, Chloé Sénard.
Pathé commande ses premières affiches de films en 1902. Les illustrations aux couleurs vives remplacent les simples listes de films imprimées sur du papier. Elles sont très grandes, collées sur les baraques des forains pour attirer les foules. Stéphanie Salmon, commissaire de l'exposition.
Tout le monde va aux foires. Souvent, les forains permettent la diffusion des inventions. Donc, ça a été le cas avec le cinéma. Là, ce qu'il y a en plus, c'est qu'on les attire avec une histoire.
Une histoire qui fait appel à l'imaginaire des spectateurs avec, par exemple,
Le chat botté, qui est une affiche de 1903.
On y voit un chat debout sur ses pattes arrière chaussées de grosses bottes.
Candido de Faria, pour dessiner son chat, reprend exactement le chat que Gustave Doré a créé dans les années 1860 et qui a été repris sur toutes les couvertures éditées pour le compte. Donc, chacun connaît parfaitement cette illustration.
Les illustrateurs jouent aussi avec les symboles comme ceux de Paris.
Montrer la ville sur une affiche, même si on voit juste la Tour Eiffel et qu'elle est toute petite pour des spectateurs du monde entier, et ben c'est une référence.
Dans les années 1920, le style des affiches se simplifie. Moins de dessins, moins de couleurs pour un message plus percutant.
Faire impression quand l'affiche de cinéma s'invente. Cette exposition donc à la Fondation Sédou Pathé à Paris. Ça aura lieu jusqu'au, et ça a lieu en ce moment, et jusqu'au 26 septembre. Avant la météo, je vous rappelle donc cette vigilance orange au cru en Dordogne et en Corrèze. Dans ces deux départements, l'eau continue de monter ce soir. Le pic est attendu en milieu de nuit prochaine. Pas de victimes pour l'instant, mais des situations encore bien inquiétantes. Le temps.
La météo avec Préfond, l'expertise retraite, épargne et prévoyance de la fonction publique depuis plus de 60 ans. Pour une retraite solide, même par temps incertain. Préfond.fr.
Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Le soleil sera encore présent demain près de la Méditerranée.
Oui, mais à part la Corse, on pourrait encore avoir quelques ondées. Les régions méditerranéennes, vous avez raison, auront un temps ensoleillé, sec et ça toute la journée, même s'il sera parfois un peu voilé ce soleil. Pour le reste du pays, ce sera plus mitigé après l'évacuation par l'est dans la matinée de la perturbation de ce dimanche. On aura un ciel de traîne qui va se mettre en place avec cette alternance de nuages, d'éclaircies et encore quelques averses. Ce sera quand même globalement bien nuageux. Et puis, on va voir revenir quand même quelques éclaircies un petit peu plus larges sur le sud-ouest dans l'après-midi. L'ambiance deviendra orageuse de la région parisienne vers l'Alsace en fin de journée.
Et pour les températures?
Eh bien, elles seront assez homogènes. Des minimales qui iront de 6 à 10 degrés le matin, ça baisse un petit peu. Et des maximales de 14 à 18 degrés. On dépassera les 20 degrés près de la Méditerranée sous le soleil.
Merci Céline Dacosta.